chapitre 12, donc, du livre des Romains. Paul s'adresse ici aux chrétiens de Rome. Alors, les historiens datent vers 57, sous le règne d'un certain Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus. Ça vous dit quelque chose? Ce nom, c'est Néron. Néron, tristement célèbre, un despote cruel et extravagant. Et un des premiers actes qu'il va faire lorsqu'il va venir au pouvoir, c'est qu'il va tuer sa mère. Voilà, comme ça au moins, Freud viendra quelques siècles plus tard avec le père et la mère, etc. Mais lui, il va tuer la mère. Et puis, bien sûr, vous le savez également, l'histoire nous l'apprend, 64, l'incendie de Rome, un prétexte pour ce despote, pour persécuter, bien sûr, tous les chrétiens. Et c'est donc dans ce contexte que Paul écrit aux chrétiens de Rome pour les encourager. Rome, on vit à la romaine, bien sûr, et vous connaissez aussi cette vie dépravée, consacrée aux idoles, et puis à toutes sortes d'orgies, et c'est dans ce contexte particulier que Paul va écrire ceci, et il va dire, au chapitre 12, verset 1er, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. » Toutes sortes de cultes, de faux dieux, où bien sûr on offrait même le corps aux déesses de l'amour, et etc., etc. Et ici, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés. Littéralement ici, c'est le mot métamorphose, métamorphosé. Et le plus bel exemple dans la nature d'une métamorphose, c'est quand la chenille qui rampe, qui est bien terrestre, devient un papillon qui vole, qui représente le céleste. Et c'est la métamorphose que Dieu a opérée, continue d'opérer en nous, pour que du terrestre sorte du céleste, bien sûr, dans nos vies, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez métamorphosés par le renouvellement de votre discernement spirituel, de votre intelligence spirituelle, de votre entendement, de votre compréhension de la parole de Dieu. Voilà, tout cela peut se résumer de cette manière. Et c'est une exhortation, bien sûr, qui ne s'adresse pas qu'aux Romains de l'époque, mais c'est une exhortation universelle, intemporelle, dans chaque culture, dans chaque génération. Eh bien, il y a également cette réalité. Pourquoi on parle de ce texte ce matin? Parce que, et c'est Yves qui partageait, qui m'avait fait cette réflexion lors d'un séminaire, où l'adversaire se sert de deux moyens, on va dire extrêmes peut-être, opposés, mais tout aussi insidieux et pernicieux l'un que l'autre, pour détruire notre foi, pour essayer justement que ce monde nous absorbe tout à nouveau. D'un côté, il y a la persécution, et de l'autre côté, il y a l'assimilation. La persécution, vous le savez, et on peut le vivre aussi déjà dans nos familles, même en France, on peut être persécuté à cause de notre foi, consiste par la force, la menace, la violence, à réduire au silence les chrétiens, à les brimer, et puis à essayer de détruire leur foi. L'assimilation est plus subtile, mais tout aussi bien sûr dangereuse. J'ai regardé la définition du mot « assimilation », c'est l'action de rendre semblable et même identique à quelqu'un, à quelque chose. Exemple, on parle d'assimilation culturelle. C'est un grand thème en France et partout. C'est exiger d'une personne étrangère qu'elle adopte le comportement, les coutumes, les traditions du peuple dominant. Il y a une différence avec l'intégration, c'est que l'intégration quand même admet que certaines spécificités culturelles existent encore. Mais l'assimilation, il y a un bel exemple d'assimilation, en tout cas où on a voulu assimiler, c'est Daniel, Anania, Michaël et Azaria. J'ai fait exprès de prendre leur nom hébreu, parce que souvent on connaît mieux leur nom babylonien. Belshazzar, Shadrach, Meshach et Abednego, ça on a tous. Et dans notre tête, quelque part, c'est déjà assimilé. C'est comme s'ils étaient de bons babyloniens. Et on a essayé de les assimiler, ces jeunes. On les met à la fac de Nebuchadnezzar, une fac renommée. Et là, on va leur bourrer le crâne, on va essayer de leur laver le cerveau avec tout ce qu'ils vont apprendre de la civilisation babylonienne, etc. On change leur identité. Leur carte d'identité est changée. Donc, ils s'appellent désormais Belshazzar, Shadrach, Meshach et Abednego, avec des dieux de Babylone. On va leur faire apprendre la langue de Babylone. Voilà. On veut là aussi bien qu'ils perdent leur identité. Notre fille qui a fait quelques études en allemand pour se préparer donc pour son métier, à un moment donné, elle a dit ceci, ça y est, j'ai assimilé l'allemand. Ah bon ? J'ai dit, mais comment tu le sais ? Eh bien, parce que maintenant, je rêve en allemand. Je rêve en allemand, c'est extraordinaire quand même. Hein. Ça allait jusque là, jusque dans les rêves. Elle rêvait en allemand. J'ai assimilé. Waouh, c'était extraordinaire. Donc et puis on veut les forcer aussi à manger la nourriture consacrée aux dieux. Hein, vous le savez. Et là, ça, ils vont dire stop. Hein, ils vont dire stop. Et on connaît. Daniel va se résoudre, va prendre une résolution de ne pas se souiller. Mais on voulait vraiment les assimiler. Et le défi pour nous, bien et quotidien, c'est refuser de nous laisser absorber, assimiler, entraîner par la mentalité de ce siècle. Et c'est très subtil, parce qu'on baigne dedans, parce qu'on vit dedans, parce qu'on respire, on est au travail, etc. On regarde des infos, on regarde d'autres choses, etc. Et c'est une pression de tous les instants. Et cette assimilation, en tout cas en Occident, est un piège là aussi au pernicieux, que la persécution. Alors, à partir d'un exemple très concret, eh bien, on va parler ce matin de l'assimilation et on va être éclairé par finalement l'action de deux hommes, un père et un fils. Il y en a un qui va vivre l'assimilation et l'autre qui ne va pas la vivre. Un exemple, 2 Rois 16, 10, verset 20, c'est l'exemple d'Akaz. Et Akaz, c'est quelqu'un qui a bien malheureusement plongé dans ce piège de l'assimilation, puisque les textes nous disent que même certains de ses fils, il va les faire passer par le feu, hein, les immoler, pour ressembler aux faux dieux, etc. Et on va voir un épisode particulier dans cette vie de ce roi. Il y a un fil conducteur, et Akaz fit toute sa vie, ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Voilà, ça c'est Akaz. Hein. 2 Rois 16, 10 à 20, avec un épisode particulier dans son règne concernant eh bien, cet autel de Damas. Voilà, et on va lire ce texte dans 2 Rois 16, verset 10. Le roi Akaz se rendit à Damas pour rencontrer Tiglath-Pileser, le roi d'Assyrie. Quand il vit l'autel qui était à Damas, il envoya au prêtre Uri le dessin et le plan précis de cet autel. Le prêtre Uri construisit un autel entièrement conforme aux indications envoyées de Damas par le roi Akaz. Il le fit avant que le roi Akaz ne soit de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel et il s'en approcha et y monta. Il y fit brûler son holocauste, son offrande végétale, y versa son offrande liquide et l'aspergea avec le sang de ses sacrifices de communion. Il éloigna de l'entrée du temple l'autel de bronze qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Il le plaça à côté du nouvel autel du côté nord. Puis le roi Akaz donna cet ordre au prêtre Uri. Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin, l'offrande végétale du soir, l'holocauste et l'offrande végétale du roi, les holocaustes et les offrandes végétales de tout le peuple du pays, versez-y leurs offrandes liquides. Asperge-le avec tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. En ce qui concerne l'autel de bronze, je m'en occuperai. Le prêtre Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Le roi Akaz brisa les panneaux des bases, enleva les bassins qui se trouvaient dessus. Il descendit la cuve de dessus des bœufs en bronze qui la portait et il la posa sur un pavé de pierre. À cause du roi d'Assyrie, il modifia dans la maison de l'Éternel, le portique du sabbat qu'on y avait construit et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actes d'Akaz, tout ce qui est accompli, cela est écrit dans les annales des rois de Juda. Amen. Alors Akaz, roi de Juda, donc, qui règne à Jérusalem, va régner pendant 16 ans. Il va commencer à 20 ans et puis il va régner pendant 16 ans, donc, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Juste quand même pour rappeler dans quel état d'esprit est Akaz, hein, le contexte de ce récit qu'on vient de lire, c'est Akaz, à la base, il est menacé par le roi de Syrie. Voilà, c'est le roi de Syrie. Et il demande de l'aide au roi d'Assyrie. Hein, il y a Syrie et Assyrie. Et ce roi d'Assyrie devient vainqueur du roi de Syrie. Donc Akaz se rend à Damas, en Syrie, là où ce roi a été vaincu par le roi d'Assyrie. Et là, eh bien, il découvre l'autel de Damas. Il découvre l'autel de Damas à un roi qui est vaincu. Et pourtant c'est cet autel d'un roi vaincu. Il va en être fasciné, il va être ébloui, et il va envoyer un plan précis hein, pour qu'il soit reproduit à l'identique pour le placer dans le temple de Jérusalem. Le piège de l'assimilation eh bien, vient de se refermer sur lui hein, d'une manière très très forte, et Akaz, une fois de plus, va se conformer aux pratiques païennes du moment. Hein, Jean nous rappelle hein, concernant ce monde, n'aimez pas le monde, ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, l'orgueil, etc., etc. Parce que celui qui se conforme à ce monde, ben, il périra avec le monde. Mais nous sommes, nous, appelés, bien sûr, à vivre dans l'éternité. Alors, le monde dans lequel nous vivons, nous le savons, bien, c'est pas le royaume de Dieu. Vous avez remarqué, hein, c'est pas le royaume de Dieu. Et le diable, d'ailleurs, y est appelé le prince de la puissance de l'air. Éphésiens 2, 1, 3 hein, nous le rappelle. Et il cherche à maintenir l'humanité, bien sûr, loin de Dieu, mais aussi à faire revenir les croyants dans leur place initiale. On a laissé une place vide dans le royaume des ténèbres. Hein, et en regardant ces places vides, eh bien, le diable est animé d'une fureur extrême. Son but, c'est de nous ramener dans son royaume, de nous intégrer, de nous assimiler à nouveau dans ce monde. Et on sait bien sûr ce que Jésus a dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Hein, on ne peut pas servir deux maîtres, Luc 16, 13. Et désormais, bien, nous voulons servir le Seigneur. Alors, quels sont le piège de l'assimilation, quelles sont quelques griffes, hein, quelques éléments de ce piège de l'assimilation. Eh bien, si on reprend le texte, d'abord, on s'aperçoit que l'autel de Damas, c'est un autel qui est dédié aux idoles, hein, aux faux dieux, bien sûr, de Damas. Alors, notamment, il y a Shamash, c'est le soleil, et puis il y a Baal-Shamen, le maître des cieux. Et pour Akaz, pour lui en tout cas, dans sa conception, c'est un autel de plus. C'est un autel de plus. Il se dit, plus il y a Dieu, plus finalement, bien, je vais leur offrir des sacrifices, je vais les adorer, eh bien, plus je serai peut-être protégé, plus je serai exaucé, plus je serai approuvé, plus je serai puissant. Hein, plus il y en a, mieux ce sera pour moi. Et le diable nous susurre au travers de l'assimilation que, bien entendu, il n'est pas question de renier notre foi. Hein, il n'est pas question de renier notre foi, mais quand même, on peut ajouter quelques expériences, quelques philosophies spirituelles qui, finalement, viendraient conforter notre foi en Jésus-Christ. Et vous le savez, vous qui suivez un petit peu les réseaux sociaux, de plus en plus, il y a eh bien, toutes sortes d'assimilations. Alors oui, bien sûr, on croit en Jésus-Christ, hein, mais on peut croire aussi en la réincarnation à côté. On peut croire aussi eh bien, à des choses spirituelles extravagantes. Une des dernières hein, que j'ai entendues, elle date de quelques mois, ça s'appelle le tunnel de l'esprit. Voilà, le tunnel de l'esprit. Alors là, on fait une grande réunion, on fait une fête, on loue le Seigneur, on danse, on chante, j'ai rien contre, attention. Hein. Et puis à un moment donné, on va faire comme, vous savez, comme quand il y a un mariage. Hein. On se met chacun d'un côté, puis on va laisser les mariés passer au milieu, voilà. Et donc voilà, hein, on va faire deux rangées, etc. Et on va se rejoindre comme ça, en espèce de tunnel. Et puis là, eh bien les premiers vont passer sous ce tunnel, les autres prient, chantent, dansent, enfin, ils font ce qu'ils veulent, etc. Et c'est le tunnel de l'esprit. C'est par ce tunnel que le Saint-Esprit, de manière particulière, va venir visiter son peuple. Et on peut faire ça pendant des heures, enfin, je sais pas, mais ça, c'est la dernière. On ne renie pas la foi en Jésus-Christ, mais on ajoute quand même quelque chose de plus spectaculaire, actualisé, etc. Et ainsi, eh bien, c'est un des pièges de l'assimilation évangélique. Vous savez que sans faire de commentaires négatifs, l'Église catholique, en tout cas, a toujours fonctionné comme ça, dans son évangélisation. Hein, on a assimilé souvent les traditions des peuples, hein, qu'on voulait évangéliser à fort, etc. Et puis on a gardé, eh bien, quelques idoles, on a gardé quelques cultures, etc. Et puis on se retrouve finalement, eh bien, dans certaines peuplades avec tout un tas de choses. Mais ils sont quand même devenus catholiques. Voilà. Mais on a gardé nos traditions. L'autel de Damas est appelé le grand autel, hein, le grand autel. Alors il frappe bien sûr le regard par sa dimension. Sur son éclat, il y a quelque chose, bien sûr, qui va fasciner le roi Akaz. Rien à voir avec l'autel de bronze du temple, hein, qui devient quand même putré à la mode. Ça fait quand même maintenant bien quelques dizaines d'années qu'il est là. Il faudrait peut-être se renouveler un petit peu. Hein, il faudrait quand même changer, etc. Et là encore, on se souvient de quelques paroles de l'Écriture. 1 Samuel 16,7, vous connaissez. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde au cœur. Et puis souvenons-nous quand même d'Ésaïe 53, verset 2, concernant Jésus. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. L'assimilation va détourner nos regards de ce qui est humble, pour les porter sur ce qui va impressionner. Sur ce que ce monde considère comme ayant de la valeur. Tout à l'heure, quelqu'un nous a offert des bananes. J'ai dit, chouette, je vais devenir riche. Et j'ai rien contre la culture moderne, etc. Il y a des fois, je la comprends pas, c'est tout. Mais bon, mais il y a un exemple là. Est-ce que vous connaissez dans la catégorie beaux-arts une œuvre de Maurizio Cattelan? Je pense que c'est un Italien. C'est une œuvre magnifique. Elle s'est vendue quand même à 6 millions de dollars. Quand même. Vous dites quand même 6 millions de dollars pour l'acheter. Il faut quand même. Alors, voilà. Quelle est cette œuvre? Eh bien, on voit une banane scotchée sur un fond blanc. Un fond blanc, voilà. Il y a un morceau de ruban adhésif gris qui met la banane comme ça. Et puis donc, il y a quand même une certaine précision dans l'angle, par rapport à l'angle où la banane est, etc. Je pense que c'est ce qui doit faire son prix. Et donc, eh bien, ce tableau va être vendu 6 200 000 dollars. Pas mal déjà. Sauf que, je sais pas si celui qui l'a acheté s'est fait avoir, hein, mais il y a juste un petit truc que peut-être celui qui a fait le tableau n'a pas dit, ou que celui qui a acheté n'a pas réalisé. Ben, c'est qu'une banane quand même. Au bout de quelques jours, ça devient quoi la banane? Eh ben, elle pourrit. Donc il faut quand même changer régulièrement cette banane. Hein, tous les 6 à 10 jours. Alors, faut bien la scotcher avec le même type de scotch, l'incliner de la même inclinaison, etc. Mais je me dis quand même, moi on m'a donné des bananes ce matin, je vais être riche parce que, vous vous rendez compte, hein, avec un truc comme ça. Et le monde considère ça comme ayant de la valeur. Alors, très bien, pourquoi pas, je me dis, mais quand même, Romains 12, 16, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, Là encore, hein, c'est un des pièges de l'assimilation. Alors attention, je ne dis pas maintenant qu'il faut refuser d'avoir chez nous de belles choses, pas du tout, parce que là aussi, Dieu mérite le meilleur. Mais la manière dont on attache, là aussi, notre cœur à ces choses, eh bien, doit être en nous une question importante. Ensuite, eh bien, Akaz entraîne dans sa chute le prêtre Uri. Uri, c'est le prêtre. Uri, c'est le gardien du temple. C'est celui qui aurait dû s'opposer à ce décret royal. C'est celui qui aurait dû dire au roi, non, ça, c'est pas possible. Dieu a donné des ordres, etc. Il aurait dû s'opposer, cet homme. D'ailleurs, dans l'histoire, il y a eu un certain roi Ozias qui a voulu offrir des parfums, hein, de l'encens dans le temple, de Chronique 16. Et là, il est dit que Azaria et 80 prêtres courageux vont s'opposer au roi. Il dit non, ça c'est pas ton rôle, tu n'as pas à faire ça. Et alors le roi va vouloir le faire. Et la Bible nous dit que la lèpre va éclater sur son front. L'assimilation, malheureusement, parfois, peut entraîner d'autres aussi à assimiler. On peut se dire, si lui le fait, Si lui le dit, pourquoi pas moi ? D'autant plus, c'est un pasteur qui le dit, hein ? C'est un pasteur qui le fait. Alors moi, simple chrétien, ben, je peux y aller aussi, mais je regrette, Uri aurait dû dire non à ce moment-là. Il aurait dit non, non, ça, je suis le gardien du temple, c'est pas possible. Et là aussi, eh bien, Jésus dira des pharisiens, ce sont des aveugles qui entraînent d'autres aveugles. Que Dieu nous aide là aussi à être lucides par rapport à ce danger de l'assimilation, lorsqu'on nous propose, lorsqu'on nous tend, etc., de dire là, non, c'est pas en accord avec la parole de Dieu, je dis non, même si ça coûte. L'autel des holocaustes est mis de côté. On n'en veut plus. Il est considéré comme obsolète, inutile, plus dans l'air du temps. Vous avez déjà entendu ça, hein ? Même si le pasteur, il faut vivre avec votre société, il faut vivre avec l'air de son temps, etc. Et on prononce ça comme une excuse, dire « bah oui, mais c'est comme ça, donc finalement, bah oui... Et en fait, ben, cette excuse, on a l'impression que si on ne fait pas comme la société, on va être mis au banc de la société, et puis bien, on va être regardé d'une autre manière, etc., etc. Oui, alors on accepte les nouvelles idées, on accepte les nouveaux changements, etc., etc. Et puis, ben oui, il faut bien vivre avec son temps. Il faut bien vivre avec son temps. Bien, aujourd'hui, il y a de nombreuses valeurs, on le sait, morales, familiales, qui sont piétinées, hein, sous le prétexte de liberté, de progrès, de nouveauté, etc., etc. Mais quand on relit 2 Timothée 3, 1-5, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, il y aura, etc., etc., il y a toute la liste, eh bien, il est clairement noté là aussi que la véritable source, c'est quand même une inspiration démoniaque. C'est quand même une inspiration démoniaque. Et toute cette liste, eh bien, on va la vivre et on la vit de plus en plus, hein, on le sait. Malachie 3,18 nous rassure quand même ce matin. « Mais vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Amen. Et il nous faut là aussi être vigilants, hein, pour ne pas accepter, eh bien, ce genre d'assimilation. Et puis, ce n'est pas fini. Akaz, il va démanteler tous les bassins qui servent à la purification des sacrificateurs. Désormais, eh bien, finalement, cette notion de purification, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est une petite musique, là aussi, qu'on peut parfois entendre, qu'on connaît en tout cas depuis longtemps. Mais Dieu est bon. Hein, Dieu est grâce. Dieu est amour. Etc., etc. C'est donc inutile de se remettre en question. C'est inutile de se repentir. C'est inutile de faire un examen de conscience. On ira tous au paradis. Il y a même quelqu'un qui l'a chanté. Vous vous souvenez, hein ? Bien. C'est pas un cantique. Et ainsi, c'est inutile de veiller sur mon comportement. Ça sert à rien. Sur son caractère, etc. Hein ? Dieu nous accepte tel que nous sommes. On l'a entendu ce matin, c'est vrai que Dieu nous accepte tel que nous sommes. Et heureusement, mais dans l'idée justement de nous transformer, de nous permettre de manifester là aussi bien notre état d'esprit, un nouvel, etc. Alors, parce que si on dit que ça, eh bien, on oublie, oui, Dieu est bon, oui, Dieu est grâce, Dieu est amour, il aime le pécheur. Mais il y a la suite, il est le péché. Il est le péché. Et cela, eh bien, Dieu est saint, Dieu est jugement et Dieu est juste. Et le message de Jésus, il est très simple, il est très basique, hein, vous le connaissez, c'est « repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Il y a les deux. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Juste une remarque. Remarquons que lorsque l'autel du sacrifice est mis de côté, et c'est ce que Akaz a fait, et c'est-à-dire pour nous, lorsque l'œuvre de la croix est mise de côté, eh bien, il n'y a plus de place ensuite, bien sûr, dans nos vies pour de conscience, une conscience du péché, une réalité, etc. Tout cela, c'est mis de côté, et le Saint-Esprit est mis de côté. Quand l'œuvre de la croix est mise de côté, quand on écarte l'autel du sacrifice, eh bien, la purification, on n'en a plus besoin. C'est terminé, il n'y a plus de conscience, il n'y a plus de réalité de ces choses. Malheureusement, les couples se déchirent, on le sait, les familles explosent, les cœurs s'endurcissent. Les cœurs s'endurcissent, parce qu'on a mis de côté l'autel du sacrifice, on a mis de côté tout ce qui sert à la purification, et désormais, on est en roue libre. Et pour conclure, ça va jusque-là, il va modifier le plan du temple. Ça va jusque-là. Il modifie, c'est-à-dire, il modifie le plan que Dieu avait donné à la base. Parce que le temple, eh bien, il n'est pas construit comme ça, sur une idée de David, et Salomon aussi l'a construit. À la base, eh bien, le plan reprend le plan du tabernacle. Hein, c'est la même structure. Et qui a donné le plan du tabernacle ? Eh bien, c'est Dieu sur la montagne. Et Dieu a dit à Moïse, « Tu feras d'après le modèle que je t'ai donné. » Et Moïse n'est pas redescendu, dire « Bon, ça, Dieu, allez, je modifie parce que ça ne me plaît pas, et puis moi, je ne sais pas le faire, je ne connais pas, etc. Ah, ça, je vais peut-être ajouter ça. » Non, Moïse s'est strictement tenu à refaire, à reproduire le dans les grandes lignes. Hein, vous vous rendez compte, quand on voit des planches de 5 mètres de haut, 75 cm de large. Vous vous rendez compte, déjà, pour les tailler, celles-là, hein, en bois d'acacia, il fallait y aller, hein, recouvertes d'or, elles sont extraordinaires, hein, ces planches, jusqu'aux toutes petites agrafes en bronze ou en or, ça dépendait du type de couverture, mais des toutes petites, voilà, pratiquement insignifiantes, de ce qui était le plus glorieux au plus insignifiant, Moïse va rien modifier. Nous, dans nos vies, souvent, on est, « Oh Seigneur, on veut les grandes choses avec toi, hein ?» Par contre, dans les petits détails de nos vies, « Oh ça, Seigneur, écoute, tu passeras dessus, parce que c'est pas si grave que ça. » Mais Moïse, lui, il n'a rien modifié. Akaz, c'est l'exemple d'un roi qui va accepter cette assimilation. Et le principe, quand on touche au plan de Dieu, quel que soit le niveau du plan, on court à la catastrophe. Hein. Quand on ne respecte pas là aussi le plan de Dieu, quel que soit le niveau du plan, ben on court et ça va aller jusque-là. Il va modifier le plan de Dieu. Et ça c'est l'exemple d'Akaz. Alors, si j'arrêtais là, on pourrait dire « Waouh !» Mais il y a quand même un bon exemple, un bon contre-exemple, c'est celui de son fils Ézéchias. Vous vous rendez compte quand même qu'Ézéchias va vivre dans ce contexte toute sa jeunesse. Il va voir de ses frères, dit l'Écriture, être passé par le feu. Dieu va quand même l'épargner, parce que dans la folie du roi Akaz, il aurait pu lui aussi être immolé. Mais Dieu va veiller sur Ézéchias et il va devenir le roi. Hein ? Lui, il va régner 29 ans à l'âge de 25 ans. D'accord ? Et il y a un dicton qui dit ceci, « Tel père, telle mère... » Ouais. Ben, on pourrait dire tel père, telle fille, ou telle mère, tel fils. Hein. Je veux dire, je vois pas pourquoi on est toujours dans une ligne comme ça. Parce que heureusement que nos enfants ont un petit peu de nous, et heureusement qu'ils n'ont pas tout de nous. Hein. Voilà, donc on prend toujours le meilleur. Moi, je dis souvent, le meilleur, c'est les parents, les défauts, c'est les grands-parents. Ça saute une... Vous êtes d'accord avec ça? Non, ça se passe pas comme ça, heureusement. En tout cas, ici, c'est pas heureusement tel père, telle fille. Et il y a un principe, hein, on n'est pas obligé de reproduire les erreurs de nos familles, de nos proches, etc. Par la grâce de Dieu, nos comportements peuvent changer, nos comportements peuvent être transformés, et ça c'est vraiment la grâce de Dieu. En tout cas, il y a dans la vie d'Ézéchias une autre ligne conductrice, et Ézéchias fit ce qui plaît à l'Éternel. Et Ézéchias fit ce qui plaît à l'Éternel. Comment pouvons-nous, eh bien, nous extraire ou refuser le piège de l'assimilation? Eh bien, Ézéchias nous le rappelle. D'abord, il va faire disparaître les hauts lieux, hein, les statues, les idoles, dont une en particulier. Ça, c'est extraordinaire quand même. Hein. Est-ce que vous rappelez de quelle idole, finalement, les Israélites, eh bien, s'étaient entichés, donc quelle idole ils adoraient? Une particulière. Vous rappelez ? Dans le désert, à un moment donné, quand ils ont dit « Quelle est cette misérable nourriture ?» etc., Dieu a dit à Moïse « Fais quelque chose. » Vous vous rappelez ce que c'était ? Élève sur une perche. Le serpent d'airain. Et la Bible nous dit que tous ceux qui avaient été mordus à ce moment-là, qui regardaient le serpent d'airain, ils étaient guéris. Alors, qu'est-ce qu'a fait le peuple d'Israël après ? Eh bien, ils ont pris le serpent d'airain, et puis finalement, ils se sont dit bah, « Tiens, on va le garder, ça va être un souvenir pour le secours de Dieu. À la base, on pourrait dire que c'était une bonne idée. Un souvenir pour le secours de Dieu. Ils l'ont gardé, ils l'ont enveloppé, etc. Ils l'ont mis dans les tentes. Et puis, génération après génération, finalement, ça va devenir un objet de culte. Ils vont le sortir. Et puis, finalement, bien, certains peut-être même y attribuaient un pouvoir magique. quelque chose concernant la guérison, j'imagine. Et c'était devenu un piège pour le peuple d'Israël. Veillons à ce que les dons que Dieu nous donne, nous accorde, ne nous détournent pas du donateur, de lui. Ça peut être un piège. C'est une réalité que certains peuvent vivre parfois. On s'attache à tout ce que Dieu nous a donné, alors au bien matériel, mais même parfois, c'est très subtil, aux dons qu'il nous donne, au ministère, etc. Un exemple, Whitney Houston, une voix extraordinaire. Hein, elle commence à chanter dans une chorale, et tout le monde, bien sûr, elle le dit dans sa biographie, c'est un don de Dieu. Malheureusement pour elle, hein, qu'est-ce qu'elle va en faire? Comment elle va se servir de ce don? Ça va être terrible pour sa vie, etc. Elle n'aura pas su gérer ce don de Dieu extraordinaire pour, bien sûr, que sa vie ait une autre tournure. Dans certaines églises qui ont vécu le réveil dans les années 30, et lorsqu'il a fallu moderniser le mobilier, il fallait surtout garder les chaises du réveil. Vous savez, ces chaises qui avaient vu le réveil. Mais le problème, c'est que ces chaises qui sont neutres à la base étaient devenues comme des objets un petit peu d'idolâtrie. Il ne faut surtout pas toucher aux chaises du réveil. Et c'est très subtil. Et on peut là aussi être confronté parfois nous-mêmes dans nos vies à cette réalité. Ce que Dieu nous donne, on se l'approprie. Et puis finalement, bien, ça peut nous détourner du donateur que Dieu nous garde. 2 Chroniques 29-31, Ézéchias va purifier le temple. Il va sortir tout un tas d'impuretés, il va purifier chaque recoin, chaque ustensile, etc., etc. Et la sanctification, ce matin, vous le savez, ce n'est pas une option. Dans les voitures, il y a des options, toit ouvrant, etc. Mais ce n'est pas une option. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de pesant, parce que la sanctification, c'est un entretien régulier par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous accompagner régulièrement dans notre vie, au quotidien, etc. Et puis, pour gérer la qualité de notre vie en Christ. C'est un accompagnement, la sanctification. Alors bien sûr, je peux dire, non, aujourd'hui, je ne sors pas les poubelles, Seigneur. Non, aujourd'hui, je ne fais pas la poussière. Ok, tu ne fais pas la poussière aujourd'hui, tu vas la retrouver demain. Tu ne sors pas les poubelles aujourd'hui, tu vas les retrouver demain, etc., etc. C'est un accompagnement. Et le Saint-Esprit nous accompagne, bien sûr. Et ce matin, eh bien, le Seigneur veut nous aider à nous laisser transformer, à nous laisser accompagner par le Saint-Esprit pour nous sanctifier. Et puis Ézéchias va rétablir le culte de l'Éternel, hein, les sacrifices, les parfums, etc., avec, bien sûr, cette première fête de Pâques. Et je me dis, finalement, pour nous, c'est pareil, refuser le piège de l'assimilation, pour refuser quelque chose, il faut d'abord que nous soyons remplis. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile à refuser une bonne forêt noire quand vous avez déjà bien mangé. Ah oui, encore que, ça dépend qui. Mais bon, c'est quand même plus facile. Hein. Oh non, j'ai pas faim, je la mettrai de côté, je la mangerai soir. Par contre, si effectivement on est affamé et qu'on a que de la forêt noire, toute la forêt noire va y passer. Toute la forêt noire va y passer. Occupant l'espace de nos vies, de nos pensées, de nos objectifs, par la louange, par la prière, par l'adoration, par la méditation. On ne va pas faire de nous, bien sûr, des grenouilles de bénitier, mais plus on va occuper l'espace de nos pensées, de nos vies, de nos partages, nos engagements avec le Seigneur, avec sa parole, etc., moins il y aura de place pour être assimilé par le monde. Moins il y aura de place pour assimiler ses pensées, son mode de pensée, son mode de vie. Moins il y aura de place pour qu'au travail, on accepte telle ou telle idée, telle ou telle pensée, telle ou telle blague, etc. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours évident, hein, quand on travaille dans un milieu, dire « je me bouche les oreilles à tes... » C'est pas toujours évident. Comment le dire, comment le gérer, là aussi, que le Seigneur nous accorde. Et puis, je termine, il va expérimenter le secours de Dieu. Dieu va lui accorder 15 ans de règne supplémentaire. Et là aussi, on pourrait tomber, et j'ai bien aimé le don spirituel ce matin, on pourrait tomber finalement dans cette idée évangélique que finalement, quelque part, Dieu lui devait quand même quelque chose à ce bon roi Ézéchias. Il a été élevé dans un contexte difficile, il n'a pas fait comme son père, etc. Et là, bien sûr, lorsqu'il entend qu'il va mourir, il pleure, il prie, etc., mais Dieu ne lui doit rien du tout. Dieu ne lui doit rien. Pourquoi Dieu va-t-il guérir Ézéchias ? Ben, tout simplement parce qu'il est sensible, Dieu est quand même sensible à sa prière, mais ce n'est pas parce que Ézéchias a marché droit pendant tous ses années de règne jusqu'à maintenant qu'il avait droit à 15 années supplémentaires. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu, hein ? Ce serait trop facile. Seigneur, je te présente mes états de service. Regarde, tu as vu toutes les réunions ? Et puis mon compte en banque, t'as vu aussi hein, tout ce que tata. Et puis mes louanges, mes prières, mes coups de téléphone, etc. Mes déplacements. Heureusement que ça marche pas comme ça. Non, Dieu est sensible à la détresse réelle d'Ézéchias à ce moment-là. Dieu est sensible à sa prière et il lui fait grâce. Il lui fait grâce, bien sûr. Et pour nous, il en est de même. Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, eh bien Dieu nous aime et Dieu nous fait grâce. On ne mérite rien. De plus, ni de moins, qu'Ézéchias, mais parce qu'il est un bon Père céleste, eh bien ce matin, il est aussi sensible à nos prières et à nos larmes. Amen. Et ça, bien, c'est la vie d'Ézéchias. Alors je vous laisse un dernier texte, c'est dans Jérémie 10, verset 2, pour conclure. C'est un rappel, mais voilà ce qu'il est dit. « N'imitez pas la conduite des nations, ne vous laissez pas effrayer par les signes du ciel, parce que les nations sont effrayées par eux. » Amen. Oui, notre monde bien, est effrayé, notre monde est bouleversé, mais ce matin, eh bien, le Seigneur nous rappelle de ne pas tomber dans le piège de l'assimilation, hein, d'être vigilant, et à l'exemple d'Ézéchias, eh bien, comme ce roi, de toujours compter sur sa grâce pour nous mener jusqu'au port. Amen. Et de continuer à notre métamorphose. Hein, devenir ce papillon de chenilles terrestres que nous étions ou nous rampions, eh bien désormais nous sommes appelés à nous élever hein, dans la présence du Seigneur comme un beau papillon. Amen. Alors que le Seigneur nous aide ce matin, eh bien à persévérer, à avancer. Amen. Nous te rendons grâce, Seigneur, ce matin pour ta bonté, ta fidélité. Et à travers ces deux exemples, eh bien nous te demandons vraiment ta grâce, ton soutien, par le Saint-Esprit, afin de nous ouvrir sur notre propre vie, Seigneur, eh bien, ce piège de l'assimilation qui est comme au quotidien. Parfois, on ne s'en rend pas compte, et on se dit, « Ah Seigneur, là, j'ai pensé comme le monde. Seigneur, aide-moi, renouvelle mon intelligence. » Je te prie ce matin de nous aider, de nous renouveler notre intelligence, notre discernement, afin que comme Ézéchias, eh bien, nous soyons des instruments de bénédiction pour notre génération. Nous te prions, Seigneur, ce matin de nous encourager, de fortifier notre cœur. Nous voulons refuser, c'est vrai, tout ce que le monde peut nous proposer et nous bénissons ton nom parce qu'il y a en toi cette force qui vient du Saint-Esprit pour que par ta parole, par ton esprit, nous soyons, Seigneur, vigilants, avertis et que nous puissions encore avoir les yeux fixés sur toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on pourrait rechanter ce cantique qui dit tout simplement « Nous adorons Adonai » et en chantant ce chant bien de réaliser bien que par nous-mêmes nous ne pouvons rien, mais avec lui, bien il nous gardera du piège de l'assimilation.